Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de sport, édition du vendredi 29 juin. Comment allez-vous? C'est le début d'un long week-end. Oui, c'est la fête du Canada et vous serez en congé. Et en plus, nous avons l'occasion de vous présenter un week-end de sport tout à fait fabuleux. Ça débute samedi, 18h30, émission d'avant-match. L'Impact affronte le Sporting Kansas. Par la suite, les Alouettes vont faire face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Et dimanche, à compter de midi, émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et regardez bien, là, écoutez. C'est ça, l'émission qu'on vous a concoctée aujourd'hui. Dans un premier temps, on aura la chance de parler avec Marc-Antoine Godin, The Athletic, le site, vous connaissez. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que les joueurs autonomes payent plus d'impôts ici au Québec? Eh bien, on verra ce que Marc-Antoine a trouvé en consultant des spécialistes. On parlera également de cette journée, début sur la glace pour les jeunes recrues du Canadien de Montréal. C'est le début sur la patinoire pour le camp d'évaluation. On parlera entre autres à Vincent Destouches sur les huitièmes de finale qui débutent ce week-end du côté de la Coupe du monde de soccer. On parlera à Philippe Quentin qui sera avec nous. Vous savez que John Tavares est dans le cœur du Canadien depuis fort longtemps. D'ailleurs, Jeff Molson en avait parlé. On fera entendre tout ça un petit peu plus tard. On aura la chance également d'avoir Guillaume Lefrançois de la Presse Plus qui sera avec nous, lui qui a assisté au match des recrues. En fait, il a vu Jesperi Kotkaniemi. Est-il bon? Voilà la question. Mais pour l'instant, il sera à la barre de cette émission spéciale dimanche à compter de midi. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin!
Allô Jérémy!
Martin, écoute, dans un premier temps, ça sera, je l'espère, je dis bien je l'espère, puis en même temps, peut-être pas tant que ça, mais j'espère une émission chargée pour vous, pour voir le Canadien de Montréal tenter d'améliorer sa formation. Est-ce que tu penses que le Canadien sera extrêmement actif à l'ouverture du marché des joueurs autonomes?
Ah, écoutez, je pense qu'ils l'ont été déjà là, depuis le début de la semaine où le, excuse l'expression, là, je vais, le courtisage est autorisé. Je pense qu'ils ont été pas mal actifs. Ils se sont informés de plusieurs dossiers, mais on ne les voit pas, on n'entend pas le nom du Canadien dans les gros dossiers. Jérémy, je parle de John Tavares, de Paul Stastny. On n'entend pas les noms du Canadien résonner dans ces dossiers-là. Je pense que la situation de l'équipe, les mauvaises performances de la dernière saison, les perspectives, disons-le, ne sont pas exceptionnelles du côté du Canadien. Ça ne veut pas dire que Marc Bergevin n'améliorera pas son équipe, mais disons que la tendance n'est pas très positive pour l'équipe. Et on le sait, les joueurs autonomes sans restriction, ils veulent deux choses. Maximiser leur valeur, mais surtout se retrouver dans un environnement gagnant, une équipe qui est près des grands honneurs ou qui peut y aspirer. Et c'est dans cette catégorie-là, malheureusement, que le Canadien ne frappe pas pour cette saison d'agent libre.
Par contre, on n'a pas le choix. On doit trouver des joueurs de centre chez les Canadiens. On a beau essayer de brasser tout ça, brasser à soupe, mais ça prend des joueurs de centre. On le dit. Oui. Si on décide de encore une fois d'utiliser Jonathan Drouin au centre, parfait, ça en prend un. Mm-hmm. Si Jonathan Drouin c'est un ailier, ben ça en prend deux. Bon, et c'est pas plus compliqué que ça, là.
Effectivement. Et écoutez, moi, je pense que Philippe Danault est bien campé chez le Canadien, même si ça s'est terminé par une offre qualificative. Là, je pense qu'on a confiance chez le Canadien au rôle que Danault peut jouer. C'est devant lui et c'est derrière lui. C'est là que sont toutes les questions. Je pense que Tomáš Plekanec va avoir une offre du Canadien si on l'identifie comme potentiellement un troisième centre et qu'on pense que Jacob Delarose peut prendre la chaise de quatrième centre. Ben là, ça en prend un autre pour compléter le top 6 si on voit Drouin comme ailier. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Moi, je trouve qu'il y a des rapports qualité-prix intéressants sur le marché, mais c'est pas des gars bien meilleurs que ce que le Canadien a déjà sous la main. C'est-à-dire que, moi, je pense, je donne l'exemple d'un gars comme Riley Nash. C'est un gars de 29 ans. Pour moi, Riley Nash, ça se compare très bien à Philippe Danault. Alors, tu sais, si on allait vers une option comme celle-là, ou même Tyler Bozak, tu sais, je pense pas que Bozak est tellement meilleur que Philippe Danault. Alors, tu sais, mais il est plus vieux.
Dans le cas de Paul Stastny, il coûte plus cher.
Puis il coûte plus cher. Peu importe là, ce qu'on va chercher à faire, peut-être chez le Canadien, c'est de gagner un peu de temps. Je sais que Guillaume Lefrançois va te parler de Kotkaniemi. Il y a également le jeune Perling. En fait, le Canadien a besoin d'acheter quelques années en attendant que ces gars-là deviennent, là, forment le pilier de ta ligne de centre.
On dit, en soutien, évidemment pas sur le top 6, mais en soutien, qu'il y aurait de l'intérêt entre le Canadien de Montréal et Antoine Roussel. Comment tu vois cette possibilité-là?
Ben, moi, j'aime bien Antoine Roussel. Je pense que c'est le genre de joueur que Marc Bergevin aime bien. Antoine, c'est un gars combatif, recule pas devant personne. C'est un gars qui, certains soirs aussi, là, il peut se greffer à tes trios qui ont un peu plus de vitesse. Là. Tu sais, c'est un gars qui pourrait, pas tous les soirs, là, entendez-moi bien, là, mais un soir donné où, par exemple, là, Andrew Shaw ne commence pas l'année avec le Canadien à cause de sa blessure. Paul Byron ne commence pas l'année avec le Canadien. Alors, tu sais, Antoine Roussel, là, si on réussit à le mettre sous contrat, je pense que ça pourrait être un bon palliatif, là, une bonne pièce à ajouter, si considérant que Shaw va être un joueur hypothéqué au début de l'année et que Byron n'aura pas eu de camp d'entraînement.
Donc, avec les blessures, veut pas, tu dois trouver des solutions de rechange à court terme. Ça, oui. C'est pour les attaquants. Mais pour les défenseurs, tu as besoin de quelqu'un à côté de Shea Weber, là?
Tu as besoin de quelqu'un à côté de Shea Weber parce que ce problème-là n'est pas réglé. Et là, je manquerai pas de respect aux gars qui ont fini l'année, aux 6 défenseurs qui ont fini l'année, là. Mais tu peux pas reprendre la prochaine année avec ces 6 gars-là. Bon, on sait que Shea Weber va être en bonne forme et tout ça. Jeff Petrie a sa place dans l'équipe, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça prend d'autres choses. Ça prend un gaucher naturel dans le meilleur des mondes. Si tu trouves pas un gaucher naturel, peut-être un droitier qui est bien, bien à l'aise à gauche, mais on sait que ça, c'est pas non plus une grande solution. On sait aussi, Jérémy, que ce sera pas un double A, c'est-à-dire qu'il y aura pas de Romagnosi ou de gars de cette qualité-là qui vont être trouvés sur le marché de cette année à la défense. Mais si on peut prendre quelque chose qui peut être un peu plus fort que David Schlemko, un peu plus solide physiquement, un peu plus durable, parce que Schlemko a de la difficulté à dépasser la barre des 40-50 matchs par année. Alors, tu sais, si on peut trouver un gars qui peut être meilleur que Schlemko, qui peut avoir un peu de métier, parce que je ne pense pas que le jeune Mété sera d'emblée le prêt pour prendre toutes les minutes que Shea Weber va prendre à compter de la prochaine saison. C'est peut-être là qu'il faut trouver quelqu'un. Là, tu peux nommer des gars comme John Moore et compagnie. Il y a peut-être quelqu'un là qui pourrait aider le Canadien. Tu sais, aussi là, dans une autre catégorie, il y a quelques années, on a pris des chances avec Alex Hemsky et Alex Semin, des chances qui se sont avérées nulles pour le Canadien. Mais tu sais, on pourrait peut-être prendre une chance avec Anthony Duclair. C'est un petit gars de chez nous. Si le Canadien évalue que ce jeune joueur-là, âgé d'à peine 25 ans, peut encore s'améliorer dans un environnement avec des gars qu'il connaît, avec qui il a eu du succès. Je pense que si ça coûte pas trop cher, puis si c'est pas un risque à long terme, on pourrait regarder également de ce côté-là. Je déteste pas non plus un Xavier Ouellet. Tu sais, Ouellet a passé toute l'année dans la LNH avec Détroit. Détroit, c'était pas un grand club cette année, là, mais Xavier Ouellet, c'est un gars qui est encore dans la mi-vingtaine. Alors, tu sais, si on dit que les défenseurs deviennent bons vers 26-27 ans, il y a peut-être encore quelque chose à offrir Xavier Ouellet. Alors ça, c'est des contrats à court terme, puis c'est des contrats pas trop dispendieux. Puis si le Canadien n'est pas capable d'obtenir, de séduire des double A, ce qu'on appelle, là, ben peut-être que ces joueurs-là pourraient être des paris intéressants parce qu'ils sont encore jeunes.
Oui, au total, Xavier Ouellet en 141 matchs, 5 buts, 18 passes, un choix de deuxième ronde en 2011 des Red Wings de Détroit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dominique Ducharme, c'était son coach. Joël Bouchard, oui. C'était son coach également. Peut-être un contrat à deux volets, peut-être aller faire un tour dans la Ligue américaine pour replacer les choses.
Je pense pas que Ouellet acceptera un deux volets, mais bon, à partir du moment où il a été racheté, écoute, honnêtement, Jérémy, je te le dis, tu sais, si on a pris des chances avec des gars comme Alex Hemsky, là, puis une couple d'autres, là, ben, je pense qu'on peut peut-être regarder aussi ces gars-là, dépendamment de ce que les hommes de hockey du Canadien pensent de ces joueurs-là. T'sais, peut-être que pour eux, là, autour de la table, les noms sont même pas mentionnés, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite curiosité. Je trouve qu'il y a une petite curiosité du côté de Duclair. Duclair a eu des très beaux moments avec Max Domi, les moments où ça a marché, en tout cas en Arizona. Il a été échangé quelques fois, puis visiblement, en tout cas, il y a de la difficulté là à offrir du rendement régulier. Mais si tu le mets dans un environnement avec Jonathan Drouin, qui connaît bien, on sait jamais.
On sait jamais, surtout que Jonathan Drouin, à la classique de golf de Dano, a dit, ben, tu sais, nous autres...
Il a fait sa campagne électorale.
Ouais, ils ont peut-être les trois amigos, nous autres ensemble, ça n'y a pas de problème avec ça. Ben, on se connaît.
Des fois, Des fois, les trois amigos, ça marche, mais on a vu des trois amigos dans le passé où ça marchait pas trop à Montréal. Mais
non,
bon, j'irai pas là, là. Ces gars-là sont partis. Mais là où je veux en venir, Jérémy, c'est que, tu sais, quand on parle de Paris, parce que, à moins d'être vraiment là, surpris quand le marché va partir dimanche, là, moi, je me répète, là, mais je pense pas que le Canadien est une destination primée pour les agents libres, la QV de cette année. C'est pour ça que je pense que ils ont des chaises à combler. Les résultats ont pas été bons l'an passé. Mis à part peut-être Nikita Sherbak, là, moi, je vois pas beaucoup de gars capable de percer l'alignement du Canadien puis de venir faire une différence, que ce soit à l'aile, que ce soit au centre. Alors, tu sais, c'est pour ça qu'ils vont peut-être être obligés de regarder certains palliatifs. Puis là, ben, je sais qu'on veut pas entendre parler de reconstruction puis que le Canadien veut pas utiliser ce mot-là parce qu'ils ont pas l'impression qu'ils font une reconstruction. Mais dans les faits, Jérémy, c'est une équipe qui a eu une espèce de trou dans le repêchage de quelques des dernières années, puis un trou forcément aussi dans le développement. Alors, tu sais, il recommence à regarnir la banque de talent, mais là, il y a une espèce de période tampon de 2-3 ans, là, où ça va prendre des gars dans les chandails, puis ça va prendre des gars un peu compétitifs.
Mmh. Martin, tu sais qu'on est un peu malade avec le hockey. J'ai commencé à faire des trios cet après-midi, oui.
Ah!
Je suis désolé. J'avais 67 sur mes trios. Il va se passer quoi avec Max Pacioretty? Est-ce que Pacioretty va bouger? Qu'est-ce qui va arriver avec lui?
Ah, il va bouger, Max Pacioretty. Il ne restera pas avec le Canadien. Mais, tu sais, on parle des joueurs autonomes avec le Canadien, là, puis de la liste d'épicerie, puis comment on pourrait arranger l'équipe à court terme. Mais je pense encore que le moyen que le Canadien aura de s'améliorer, c'est cette carte-là. Tu sais, je vois pas comment... parce que je connais pas mal le dossier, là, je vois pas comment Max Pacioretty pourrait revenir à Montréal en septembre. Si une affaire comme ça arrivait, là, je suis pas en train de dire que ça pourrait pas arriver, mais si une affaire comme ça arrivait, oh yo yo, il va devoir y avoir quelques rencontres là de négociation entre guillemets. Il va devoir y avoir vraiment là des choses qui vont être mises sur la table si une situation comme ça arrivait. Mais la carte que le Canadien a encore dans les mains pour s'améliorer, c'est Max Pacioretty. Tu sais, en dépit de ce qu'on entend sur lui, là, pas de valeur, pas très bonne valeur, bon et tout ça, là, on a cassé un peu de sucre sur son dos. Ça reste un compteur de 30 buts. Là, John Tavares, on dit que sans oser, a pris une certaine position avantageuse. Moi, je crois encore que le Lightning de Tampa Bay, s'ils l'ont rencontré, c'est qu'ils sont sérieux. Ils veulent améliorer leur ligne de centre. Si le Lightning est capable de laisser partir un de leurs ailiers pour faire un peu de place sur la masse salariale, ça reste une adresse intéressante. Alors là où je veux en venir avec ça, c'est quand Tavares va être parti, là tu vas regarder des dossiers comme O'Reilly à Buffalo, au centre, parce que O'Reilly aussi est un peu dans des en eau trouble, c'est-à-dire qu'il n'est pas en bon terme avec Jack Eichel, la grande vedette de l'équipe. Ça aussi, c'est une situation qui va devoir être réglée. Alors, tu sais, ces gars-là risquent d'être devenir des saveurs intéressantes pour les équipes qui veulent s'améliorer, là.
Est-ce que, Martin, toi, tu irais jusqu'à donner ce qu'on demande du côté des Sabres de Buffalo, un choix de premier tour, un choix de deuxième tour, puis un jeune prometteur de l'organisation pour avoir les services de O'Reilly?
Oh non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que, tu sais, d'ailleurs, là, les Sabres veulent se départir de O'Reilly parce que ils ont de la difficulté à... Là, tu as Eichel qui va prendre de plus en plus d'importance avec les années. On va lui mettre le C sur son chandail et tout et tout. Là, tu as le jeune Middlestad qui va être le one-two punch avec Eichel. Puis, on regarde le salaire qu'on a consenti à O'Reilly, puis on se dit... Hey, ça commence à faire cher pour un troisième centre. Alors, dans une équipe moins bien nantie au centre comme le Canadien, moi, je pense que O'Reilly peut être un palliatif intéressant sur le top 6, mais dans une équipe bien nantie au centre, O'Reilly, c'est un top 3. Alors, c'est pour ça que, tu sais, quand j'entends parler de choix de première ronde, choix de deuxième ronde, puis un espoir de premier niveau, là, ça commence à être payé cher. Puis, de toute façon, les Sabres, tu sais... Moi, je sais que la relation entre O'Reilly et Eichel, elle est assez détériorée. Alors, tu sais, puis il y a le fameux montant de 7,5 millions là, qui dérange un peu les Sabres de Buffalo. Alors, tu sais, les Sabres vont se retrouver dans le même genre de situation que Marc Bergevin avec Pacioretty. C'est-à-dire que tu vas avoir de quelque chose de bon, mais tu n'auras pas la lune. Alors, si tu es pour bouger le joueur, bouge-les dans les meilleurs intérêts de l'équipe et avec le maximum que tu peux avoir. Mais attends-toi pas à avoir la lune dans les circonstances.
OK, j'ai deux noms pour terminer. Le premier, James Van Riemsdyk. Est-ce que le Canadien doit faire signe de vie? Comment tu vois la situation?
Ah, c'est sûr que le Canadien doit faire signe de vie dans beaucoup de dossiers comme celui-là aussi. Puis, tu sais, le Canadien, ils ont de l'argent à offrir. Ils n'ont pas un environnement gagnant. Ils n'ont pas une bonne ligne de centre pour un ailier de la qualité de GVR, parce que lui, il va vouloir un gars qui lui passe la rondelle. GVR, là, c'est un genre de Pacioretty, entre guillemets. Ils ne sont pas trop pareils, mais c'est un ailier qui a besoin d'être alimenté par un bon passeur. Alors, tu sais, à Montréal, il n'y aura pas là ce qu'il cherche, mais en même temps, si GVR veut de l'argent, comme on sous-entend, là, ben, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir lui en donner de l'argent. Mais le Canadien peut lui en donner de l'argent. Alors, tu sais, c'est ça, là. Si on a quelqu'un, là, qui dit, moi, je veux faire un coup d'argent, puis je veux avoir un contrat solide financièrement, puis je pense que le Canadien peut devenir compétitif dans 3 ans, disons, là, ben là, le Canadien peut être une adresse intéressante. Mais c'est sûr que Marc Bergevin va faire ses devoirs, Jérémy. Il va sûrement qu'il va se pointer. Sûrement qu'il s'est déjà pointé le nez dans la plupart des dossiers.
OK, un petit dernier, David Perron.
David a connu une de ses bonnes saisons sous Gérard Gallant. Il a probablement aussi appris des choses sur lui-même en jouant sous Gérard Gallant. Il nous en a raconté un petit bout l'hiver dernier. Je pense que c'est un dossier qui mériterait d'être regardé. Il y a de l'expérience, David Perron, tu sais, puis c'est un bon guerrier. C'est un gars qui va sur la glace puis il compétitionne. C'est pas toujours parfait. Il y en a pas de joueur parfait, mais il compétitionne. Alors, écoute, ça aussi, ça mérite d'être regardé. Le Canadien doit trouver une façon de s'améliorer et de gagner du temps en attendant d'avoir les jeunes qu'ils ont repêchés au cours des 2 dernières années, là, que ces gars-là deviennent un peu plus compétitifs.
16 buts, 50 passes, 66 points pardon, pour David Perron la saison passée avec les Golden.
Il n'y a pas beaucoup de gars chez les Canadiens qui ont fait 60 points et plus l'hiver passé.
Non, tu as bien raison là-dessus, Martin.
Mais je répète encore une fois, tu sais, les gars que tu as mentionnés, là, GVR, Perron, ce sont tous des ailiers qui avaient des bons joueurs de centre pour leur donner la rondelle.
Tu as bien raison. Et surtout, c'est des joueurs de centre qu'on a besoin présentement chez les Canadiens. Donc, Martin, on vous écoute. Émission spéciale dimanche en compagnie de Danny Dubé. Vous serez là à compter de midi. Je te dis un très gros merci du temps que tu nous as accordé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Tous nos collaborateurs, d'ailleurs, sont prêts à descendre dans l'arène avec nous dimanche.
C'est ça. J'espère qu'il y aura quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Martin McGuire, merci d'avoir été avec nous.
Au revoir, Jérémy.
Merci, Martin McGuire, qui nous parlait de cette journée fort spéciale, 1er juillet, ouverture du marché des joueurs autonomes. On s'arrête quelques instants. Jesperi Kotkaniemi, est-ce qu'il est bon? Il a joué aujourd'hui. Il était là. Il l'a vu. Guillaume Lefrançois de la Presse Plus nous dit, est-ce qu'il est bon, vraiment bon, Kotkaniemi? Restez là.